C'est l'heure pour nous d'aborder un dernier sujet, direction la pointe de la Bretagne.
Tout le monde part de Brest, les gens qui ont un peu de... Enfin, c'est triste à dire, mais des gens qui ont un peu d'ambition, ils partent de Brest, quoi, souvent, quoi. Parce que bon, y a un peu d'activité ici, mais c'est pas la folie non plus, quoi. Il y a certains domaines où tu vas pouvoir trouver des métiers intéressants, mais en vrai, la plupart des gens se barrent d'ici. Et du coup, c'est pour ça que ça reste une ville très prolétaire, on va dire. Il y a une certaine atmosphère à Brest, quoi. C'est une ville beaucoup moins bourgeoise que toutes les villes de Bretagne, déjà. Et voilà, on peut retrouver un peu cette ambiance dans le Nord, je pense, dans certaines villes du Nord. Mais dans la Bretagne, tu vas à Quimper, tu vas à Nantes, tu vas à Rennes, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis, ouais, c'est, vu que c'est une ville qui a été rasée, il y a... La mocheté a un charme, en fait, quoi. Bon, c'est vrai, le béton, tout ça, bah, quand tu grandis dedans, en fait, c'est vrai que tu t'y attaches, au final, quoi. C'est froid, c'est rude un peu, mais du coup, bah, quand t'as... Voilà, c'est comme un père un peu trop sévère, et bah, quand on est adulte, en fait, on le remercie, quoi.
On vient d'entendre un extrait du film documentaire Le Champ de Brest, un film qui nous emmène au cœur de cette ville portuaire, le bout du monde, comme on l'appelle. Le Champ de Brest est à l'affiche du cinéma de l'Arvor jeudi soir à 20h15, et pour en parler, on reçoit son réalisateur, Gwendal Le Goff. Bonjour Gwendal.
Bonjour, merci de me recevoir.
Eh bien, tout le plaisir est pour nous. Alors tout d'abord, intéressons-nous un petit peu à vous. Comment vous êtes-vous retrouvé à être réalisateur d'un film documentaire? Est-ce que c'était ce à quoi vous vous destiniez?
C'est une voie dans laquelle je me suis lancé il y a déjà quelques années. Pour ça, j'ai fait une formation. Enfin voilà, moi à la base, j'ai fait des études d'histoire. Mais voilà, j'avais pas forcément envie de me diriger vers l'enseignement, même si j'ai quand même enseigné par la force des choses. J'ai fait cette formation, j'avais envie de faire des films depuis assez longtemps. C'est mon premier, Le Champ de Brest, c'est mon premier documentaire produit, on va dire, celui qui avait une diffusion télé, avec une production, là où j'ai été prendre le temps de chercher des financements pour faire un truc propre, ouais, carrément.
Et donc vous êtes originaire de Douarnenez,
ouais,
si je le prononce bien, dans le Finistère. Vous vivez principalement sur Rennes. Pourquoi avoir voulu filmer justement la ville de Brest? Est-ce que vous avez un lien particulier avec cette ville-là?
Eh ben, moi voilà, comme vous l'avez dit, j'ai grandi à Douarnenez, donc c'est pas tout à fait la même chose que Brest, mais c'est quand même deux villes portuaires et ouvrières à la base. Douarnenez, ça change très vite. Et il y a un truc, en fait, qui résiste à Brest et qui, moi, me touche énormément. Et c'est une ville que j'ai beaucoup arpentée et que j'ai découvert, notamment par les concerts de musique underground, notamment rock et techno. Et en traînant là-bas, je me suis dit qu'il y avait moyen de raconter une histoire, raconter un peu cette ville, l'explorer avec des gens de la scène musicale. Pas forcément des gens connus, mais des gens qui font vivre cette scène de l'intérieur. Parce que je les ai rencontrés petit à petit. Je me suis dit, maintenant, tu te poses, Gwen. T'écris un film et t'essaies de trouver un producteur ou une productrice, des financements, et ça a pris du temps, mais je l'ai fait, quoi.
Et justement, vous avez arpenté la ville, vous avez voulu la faire découvrir à travers ses sons, ses bruits, ses musiques. Pourquoi avoir pris cette direction-là? Pourquoi vouloir présenter la ville de cette manière-là?
Alors, c'est vrai qu'on dit comme ça, on pourrait penser que c'est un documentaire sur la scène musicale brestoise, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est vraiment qu'est-ce que c'est la poésie d'une ville portuaire et populaire, parce que voilà, moi j'ai grandi dans ces environnements-là, et c'est des choses qui me porte à cœur de défendre ces endroits et de montrer leurs valeurs. Je me suis rendu compte que les différentes scènes musicales, elles étaient hyper imprégnées. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça qui est étonnant quand tu vas à Brest et que t'écoutes des rappeurs, que t'écoutes des rockers. Ils parlent pas forcément directement de leur ville, même si certains le font, mais tu sens qu'ils sont hyper imprégnés, parce qu'en fait c'est quand même un territoire vraiment singulier, quoi. C'est une ville avec la moitié du port qui est occupée par l'armée, t'as des gros silos qui reçoivent tout le soja, t'as le fait que ça a été rasé, et que ça reste encore une ville, voilà, même si il y a le même phénomène que partout en Bretagne, c'est-à-dire les loyers qui augmentent, tout ça, vu que toute la Bretagne est devenue un territoire attractif, finalement, quand tu traînes à Brest, tu te rends compte que ça reste comme une ville qui appartient encore à ses habitants. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et voilà.
Dans ce documentaire, il n'y a pas de voix off. On vous entend quasiment pas, à part une fois, si j'ai bien compté, devant l'ancienne cafétéria qui va devenir un bar. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de vraiment laisser à l'écran que les protagonistes?
Ben, c'est un film documentaire et moi je défends une certaine vision du documentaire qui est ce qu'on appelle le documentaire de création, c'est-à-dire qui essaye de s'approcher le plus du cinéma, voilà, vraiment de l'immersion, de laisser de la place à la parole des personnages, pas mettre des petits bandeaux avec leurs noms qui apparaissent, et essayer même de faire de la mise en scène, même s'il y a quand même des interviews, voilà, ça garde un côté documentaire assez classique. Et c'est vraiment une question esthétique. Et en fait, moi, j'ai rien contre la voix off. D'ailleurs, sur mon film de fin d'études, il y a de la voix off, mais il faut vraiment qu'il y ait une justification artistique pour ça. Pas qu'elle arrive juste pour... prendre la main le spectateur, moi je préfère que il se laisse imprégner. Et là en fait c'est un choix qui a été fait au montage. Moi j'avais imaginé une voix off, tu vois, donc tout n'est pas prévu à l'avance quand tu fais du documentaire. Et en fait au montage on s'est rendu compte que rajouter une voix off ça le ferait pas et qu'il fallait laisser justement la parole au personnage, ce qui fait que je suis même retourné un peu pendant le montage parce qu'il me manquait quelques éléments. Et mais c'est un choix de montage. Ouais.
Et comment ça s'est déroulé un peu le tournage? Il me semble que ça a été sur un temps de 2 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En gros, j'avais fait des repérages il y a assez longtemps. Mais vraiment, le tournage, il a commencé il y a 2 ans quand, en fait, mon producteur, donc Maël Cabaret, des 48e Rugissant, on a réussi à aller chercher les sous. Et là, on est parti avec mon cadreur. Et en fait, on y allait petit à petit, un peu à toutes les saisons et un peu en fonction de nos disponibilités. Parce que moi, je travaillais encore en tant que prof à l'époque aussi. Et aussi en fonction des dispos de mon cadreur, mais aussi en fonction du calendrier des personnages, quoi. Et puis je pense que c'est bien de prendre un peu le temps aussi, de laisser aussi des trajectoires de vie se dérouler. Par exemple, là on a entendu au début le Pushka, qui est un des piliers du rap à Brest, voilà, qui est un studio. Et ce qui est chouette, c'est que comme j'ai pris le temps de ce film-là, j'ai pu aussi voir son évolution. Voilà, il y a des étapes dans le film, il ouvre un nouveau studio. C'est intéressant en fait, c'est de prendre son temps.
Et vous l'avez dit, c'est pas seulement un documentaire sur la scène musicale brestoise, vous intéressez aussi beaucoup à l'histoire de Brest. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait ensemble.
Approchez, approchez. Les pavés ne parlent qu'à ceux qui les écoutent. Laissez-les vous conter l'histoire de la rue maudite. Elle se niche dans le ventre de recouvrance. Entre la prison et l'arsenal, ça fait 300 ans qu'elle se trimballe. Rue Saint-Malo, elle s'appelle. Elle en a vu passer de belles. Des filles de joie pour les bourgeois, des filles de rien pour les vauriens, des maquereaux et des prolos, des bagnards, des fêtards, quelques mégères, mais pas de bergères. Ursule Potvin, Marie la Rose, fille légère, femme dissipée, marquée au fer rouge et fouettée, comme tant d'autres furent enfermées, rue Saint-Malo, à la Madeleine.
Alors on retrouve à plusieurs moments cette dame qui s'appelle Mireille Kahn, la gardienne de la rue de Saint-Malo. Il y a des passages très touchants et très poétiques comme celui-ci. D'ailleurs, ce n'est pas précisé dans le film. Est-ce que c'est une poésie qu'elle raconte?
C'est un texte qu'elle a écrit. Alors, pour recontextualiser, pour expliquer, Mireille Kahn, en fait, c'est une figure de Brest. C'est vraiment une icône. C'est une des plus grosses organisatrices de concerts alternatifs de Brest. En fait, elle a occupé des squats dans les années 80 où elle organisait beaucoup de concerts de punk. Et elle occupe une rue depuis les années 90. Au début, voilà. Bon, maintenant, tout s'est arrangé avec la mairie. Elle va pas se faire déloger. Et c'est une ancienne rue, voilà, qui a résisté au bombardement. Elle s'y est installée. Et elle l'a rénovée avec tout un tas de gens et elle y organise des concerts. Et en fait, Mireille, elle s'intéresse à l'histoire, elle a un regard. Et à côté de la rénovation de la rue et des concerts qu'elle y organisait, elle a découvert en fait que à côté de cette rue, il y avait une ancienne prison, et une prison pour femmes en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Brest, pendant longtemps, ça a été une ville prison. On envoyait en fait un peu tous les réprouvés de la France là-bas, tout au bout de la Bretagne. Et à l'époque, je vais pas tout raconter le film, mais voilà, elle a voulu rendre hommage à ces femmes parce que voilà, Mireille, elle est hyper politisée, c'est une femme très engagée, féministe.
Il y a un moment très marrant on va pas tout spoiler, mais quand elle est devant un ancien bâtiment militaire, ces remarques sont très marrantes.
En fait, ce qui est bien, c'est À Brest, ce qui n'est pas facile quand tu tournes, et notamment avec des vieux rockers ou des rappeurs, c'est que les mecs, ils sont assez pudiques, ils aiment pas trop prendre la parole et tout ça. Il y a un truc un peu finistérien de genre, ouais, je sais pas trop. Par contre, les femmes, notamment celles que j'ai filmées, elles s'en foutent, elles disent ce qu'elles pensent, et Mireille, elle en fait partie, quoi. Et c'est vrai que c'est super chouette à filmer, parce que quand tu lui demandes un avis sur un truc, et tout, elle balance ce qu'elle a à dire, et puis c'est tout, quoi. Mais elle se pose pas la question de la légitimité, ni rien, et elle donne son avis, et c'est hyper touchant. Touchant, ouais.
Et dans votre film documentaire, vous utilisez également des images vidéo, des photos et des sons d'archives pour illustrer les récits lorsque ça parle d'histoire notamment. Est-ce qu'il y avait aussi cette envie de parler de l'historique de Brest, de ses évolutions, au-delà de son environnement actuel moderne ?
Pour moi, avec ce documentaire, j'avais un peu la prétention ou l'envie de parler de l'âme de la ville de Brest. Et pour moi, l'âme d'une ville, c'est son histoire. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, chaque personnage par exemple, David, qui fait de la pop, enfin, c'est un quarantenaire qui fait de la pop folk. Par exemple, il a grandi dans un quartier, il m'en parle. Et du coup, ça permet d'ouvrir sur une partie de l'histoire de la ville. Et en fait, c'est ça, moi, que j'aime bien, c'est mêler. Pour comprendre un peu un territoire, y a des gens qui le racontent, qui en parlent, qui font une pratique artistique comme de la musique, mais ils sont tous ancrés dans un territoire, ils viennent de quelque part, et souvent l'histoire c'est hyper éclairant pour comprendre les choses. Et puis moi je suis à la base historien aussi, donc c'est un peu une de mes obsessions, on va dire, de montrer ces choses là.
Et on a déjà commencé à l'évoquer, il y a donc une grande place qui est accordée à la scène musicale brestoise. Il y a du rap avec les rappeurs Reigns, Puchka, il y a du rock avec Mammouth, si je prononce bien.
Ouais.
Il y a de la pop, comme vous venez de dire, avec David Crozon, il y a Bruno Leroux aussi. Et on va écouter justement un petit extrait du rappeur Reigns.
Avec moi, Reigns, le fils de Brest, on vient du cœur de la ville. Et on traîne en bande sur des kilomètres. On vient du cœur de la ville, là où Clodo et Boiteau rôdent près des bistrots. On vient du cœur de la ville. Moi j'avais que le vent pour bercer mes rêves. On vient du cœur de la ville, là où Clodo et Boiteau rôdent près des bistrots. Ouais, même perambule dans le 3-1. Excel, j'ai encore réveillé le voisin. Ouais, même perambule dans le 3-1.
Donc c'était un extrait du rappeur Reigns, c'était un peu subjectif parce que c'est une musique que du coup j'aime beaucoup, que j'ai écouté tout à l'heure. Et comment vous avez appréhendé cette diversité de musique ? Donc vous l'avez dit, vous connaissiez déjà un peu la ville et les protagonistes. Comment, pour ceux qui connaissent pas Brest, on peut expliquer la diversité de la scène musicale en fait ?
C'est comme dans plein d'autres villes. Par exemple à Rennes il y a une énorme diversité musicale aussi, et à Brest c'est le cas en fait. D'ailleurs Pushkask il m'a dit un truc très simple une fois, il m'a dit Brest c'est une ville populaire, et dans les villes populaires il y a des gens qui s'expriment, et comment ils s'expriment, ils s'expriment avec la musique. C'est un langage évident pour plein de gens. À l'époque c'était le rock, le punk, aujourd'hui c'est plus la techno et le rap en fait. Et moi j'avais envie d'embrasser toute cette diversité là, et même si moi à la base la scène que je connaissais c'était plus la scène techno et la scène do it yourself, plus musique expérimentale et tout ça, j'ai fait l'effort d'aller rencontrer d'autres personnes, et un peu avec du bouche à oreille on allait prendre des cafés, et tu finis par comprendre un peu qui est qui. Après je pense que le fait que je sois un étranger, ça a été à la fois un handicap et un avantage, dans le sens que c'est un handicap parce que tu dois tout défricher toi-même, mais c'est un avantage dans le sens où tu as peut-être un peu plus de recul, tu n'as pas la tête dans une seule scène, et du coup tu peux y aller au feeling un peu et choisir avec qui tu as envie de travailler, quoi.
Et à un moment donné dans le film, Bruno Leroux, donc un des musiciens de Brest, parle d'identité culturelle imposée presque. On l'a aussi un peu compris avec le premier extrait au début de l'interview avec Puchka. Comment vous l'avez ressenti, cette identité assez forte et cette attache aussi qu'ont les Brestois avec leur ville ?
C'est marrant, c'est finalement les identités, c'est beaucoup des histoires qu'on se raconte en fait. C'est des imaginaires finalement. Alors, est-ce que ça a des réalités ? Oui, à Brest, c'est encore une ville ouvrière, c'est encore une ville populaire, mais ça change. C'est une ville qui se développe aussi économiquement, et finalement, elle se tertiarise aussi. Et donc aussi, la musique qu'elle en sort, elle change. Et elle se diversifie aussi. Il en parle, Puchka, à un moment dans le film. C'est que il y a de plus en plus de gens qui viennent du monde entier, donc ça apporte aussi d'autres d'autres types de musique. Mais ça reste, il y a effectivement, pour l'instant, en tout cas, la plupart des Brestoises et des Brestois sont des filles et fils d'ouvriers. Et forcément, ça marque un univers culturel, c'est obligatoire. Tu grandis avec certaines histoires, voilà, ils grandissent avec l'histoire de l'arsenal, l'histoire des bombardements. En fait, quand, tout ça, c'est des récits qui te marquent et qui vont forcément t'inspirer. Et moi, c'est quelque chose qui me parle, parce que voilà, je viens d'une ville aussi où il y a tous ces univers culturels très très forts. Et donc oui, c'est une réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça change. Et peut-être que dans 20, 30, 40 ans, on ne se racontera plus les mêmes histoires à Brest. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai découvert, c'est ça.
Pour finir un peu le diaporama, on suit également un autre personnage qui s'appelle Teddy Larue, qui se balade dans Brest et qui capte différents sons naturels de la ville. Avec lui, on passe des bâtiments industriels à la mer. Comment expliquer, qu'est-ce que vous avez compris, son idée, sa passion, et ressenti cette richesse des sons de la ville?
Alors Teddy, c'est un artiste électro, mais qui avant avait beaucoup fait du field recording, c'est-à-dire qu'il allait enregistrer les sons avec ses micros dans la nature pour faire des pièces sonores ou même s'inspirer pour faire de la musique électronique derrière. Et en fait, moi, Teddy, c'est un bon ami à moi, et ce que je lui ai proposé, c'est pour le film, c'est de faire un peu de la mise en scène, parce que moi, je voulais quelqu'un qui aille vraiment chercher les sons de la ville dans les entrailles, voilà, de la ville de Brest, faire un truc très poétique. Et il était super chaud, donc on y allait et on a été chercher, voilà, tous ces sons. C'est sûr que c'est une ville portuaire, donc il y a les sons du port, métallique, le vent, la pluie, parce qu'il pleut à Brest, hein, et c'est extrêmement riche. Et en plus, ce qui est génial, c'est que lui, il en fait une matière musicale directement. Ouais.
Et pour finir, une dernière question. Dans le synopsis du documentaire, c'est marqué aussi qu'il y avait une recherche de savoir si Brest va résister à la gentrification des villes bretonnes. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, après avoir réalisé ce film sur Brest?
Ça va se développer, peut-être que moi j'ai mon avis assez tranché là-dessus, mais c'est une ville qui va se développer économiquement, donc qui va s'enrichir. Après, c'est marrant, c'est tant qu'en fait le bord de mer à Brest, enfin le bord de mer direct du centre-ville sera l'armée qui sera là, ce sera pas possible de faire trop une corniche mignonne et tout ça, donc ça restera une ville, je dirais, un peu différente, peut-être un peu plus populaire. Mais peut-être que ça va changer et que tout ça va disparaître. Je sais pas. C'est quand même on vit quand même dans une région ultra attractive et où il y a beaucoup de gens qui s'installent. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire.
Eh bien, merci beaucoup, Gwenda Le Goff, d'être venue avec nous ici.
Eh bien, je vous remercie.
Et on rappelle que le Chant de Brest est projeté à l'Arvor jeudi soir à 20h15.